Franche Culture, la curiosité sous toutes ses coutures. Un mercredi sur deux, de 17h à 17h30 et le dimanche de 11h à 11h30. Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture. Au menu, tous les 15 jours, de l'actualité culturelle de l'Anjou et plus si affinité. Au micro, nous sommes 7 chroniqueurs pardon, à fouiller, fouiner, dégoter les perles culturelles de la région. 7 dont la seule motivation est la curiosité. Autour de la table avec moi aujourd'hui, Dominique et son invité, Xavier Guéraud, pour le prix départemental de l'architecture. Et tout de suite, on commence avec vous, Bénédicte, et vos deux invités, Rouylan et Hugues de Vautibault, pour l'ouverture prochaine d'un espace artistique, l'atelier de Yi.
La palette de couleurs.
Bénédicte, vous avez découvert un nouveau lieu au cœur d'Angers. On en parle avec vous et vos invités, Rouylan et Hugues de Vautibault.
Alors depuis un an, ça s'agite derrière cette vitrine poussiéreuse, ancien comptoir de plombier, à l'angle de la rue des 400 coups et de la rue Baudinier. Il y a quelques mois, j'y ai aperçu des centaines de cuvettes WC en faïence blanche. Alors aujourd'hui, elles ont disparu pour laisser place à un élégant espace artistique. Rouylan, vous êtes artiste taïwanaise formée aux Beaux-Arts de Tokyo et vous êtes mariée à Hugues de Vautibault. Vous êtes ici tous les deux parce que c'est un projet commun. Parlez-nous l'un ou l'autre du concept. Hugues, c'est à vous.
Bon, alors oui, je vais commencer. Bon, merci Radio Campus de nous recevoir. Merci Bénédicte de nous avoir invités. Oui, comme tu le disais, c'est un projet de couple. Nous sommes deux dans l'affaire. Rouylan est l'âme créative, artistique. Elle a découvert la céramique au Japon. La céramique au Japon est un art majeur. Il est enseigné et il fait vraiment partie de la culture très forte. Et puis, moi, c'est plutôt le côté marketing, commercial, voilà, pour l'accompagner, pour l'épauler dans ce projet. En fait, le concept vient d'un bon moment que nous avions eu sur le marché aux fleurs à Shanghai. Rouylan, peut-être tu peux en parler.
Oui, on appelle ça un tea house. C'est une maison de thé. Et c'est une maison de thé comme chez quelqu'un avec un jardin. Et quand on rentre dans cette maison, on n'a pas l'impression d'être dans un magasin du thé. Et au contraire, c'est comme si on est invité chez quelqu'un et on nous propose du super thé. Et à côté du thé, donc, il y a la théière, les jolies tasses, avec un jardin, avec une vie. Et puis, ils ne nous poussent pas à acheter. Au contraire, on passe le temps de boire le thé et parler de la culture autour de thé. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, ce projet, c'est exactement de l'art avec de la vie.
La cérémonie du thé, ça vous avait emballé, vous vouliez recréer un lieu équivalent.
Exactement.
Alors, oui, c'est vrai que c'est aussi un lieu de partage, c'est ce que vous disiez, hein, que vous vouliez. Moi, je dirais même plus loin que c'est un repère de passionnés. Voilà. Et comment ce projet, pourquoi vous utilisez le nom de Yi?
Alors,
peut-être que je prononce mal d'ailleurs.
Non, très très bien. I, ça se écrit Y-I, ça se prononce I. En chinois, c'est un, ça veut dire un, c'est le commencement. Et ce projet, c'est un lieu de commencement pour inviter des gens qui viennent commencer quelque chose de nouveau. Et voilà, c'est au commencement.
Au commencement. Et le I, le petit I? Oui, qui correspond à un.
Oui.
D'accord. Oui, je peux rebondir là-dessus. En fait, l'atelier de Yi, qui se trouve au 29 rue Baudinier, est un espace artistique, hein, comme tu le disais tout de suite. Et nous avions dans le cœur non pas de faire comment dire, une galerie d'art où on voit l'art lorsqu'il est exposé dans les musées, il est magnifié, dans les galeries d'art, il est achevé. Là, l'idée, c'était plutôt de faire un atelier où on retrouve l'artiste dans son processus de création, de créativité. Donc, c'est l'atelier et le lieu du commencement. Donc, voilà, l'atelier de I1. 2, 3, c'est le commencement d'une nouvelle aventure, une aventure créative.
Alors pourquoi à Angers ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi Angers finalement ?
Bon, alors ça c'est vraiment retour aux sources pour moi. Et après quasiment 30 ans d'expatriation, surtout en Asie, donc Ruelan, rencontré au Japon, ensuite ma profession m'a emmené vers Hong Kong, vers la Corée, vers la Chine. Les 15 dernières années, c'était en Chine. Et puis, retour juste avant que la porte ne se referme avec le Covid. Donc, retour en 2019 à Angers, parce que ce sont les origines familiales. Curieusement, même dans cette rue, je retrouve bien plus tard, après avoir découvert ce local magique pour lequel
on en parlera tout à l'heure.
Ben, je retrouve des racines familiales. Donc, mais on s'en est aperçu plus tard.
Plus tard, oui. Très bien. Ruelan, je voulais revenir vers vous et je perds ma question. Je voulais savoir, oui, je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre technique par rapport à ce que vous proposez ou ce que vous proposerez dans l'atelier.
Ah oui. Donc, je voulais pas, c'est pas parce que je suis céramiste et je peins que je vais uniquement créer un espace dédié à ça. Et je voulais que ça soit bien plus, c'est-à-dire que toutes les techniques possibles en terre et en art plastique, en dessin, en peinture, en calligraphie avec l'encre de Chine, selon les Angevins demandent, qui cherchent à vraiment commencer d'apprendre.
D'accord. Et vous utilisez une technique particulière ? Ou comment est-ce que ça se passe ? Par exemple ?
Oui, vous. Pour la céramique ?
Oui, bah, par exemple.
Ah oui, donc je fais de modelage, de technique le plus traditionnelle, et je tourne, et un tournage, tournassage. Et donc, mon atelier de céramique propose des techniques pour accompagner ceux qui veulent connaître la terre.
Est-ce que c'est lié à votre apprentissage à Tokyo, en l'occurrence ?
Ah, complètement, oui. Oui.
Ben, je vais me permettre d'intervenir, hein, parce que je suis débutante dans l'atelier de I. J'ai déjà eu deux cours pour expliquer qu'on travaille avec beaucoup de rigueur, on apprend petit à petit et modestement, et dans un climat de bienveillance et de grand plaisir. Donc, je me permets de dire un petit plus là, voilà, sur ce qu'on vit dans cet atelier.
Alors moi, je vais revenir au lieu que vous avez choisi et qui est magnifique. Et je me tourne vers vous, Dominique. Vous avez malheureusement, je crois, pas réussi à pousser la porte parce qu'il n'y avait personne ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Eh bien, j'ai découvert de très beaux immeubles construits entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Si on était à Paris, on dirait que ce sont des architectures classiques haussmanniennes. Ce qui, évidemment, a tout de suite attiré mon attention, ce sont ces très grandes vitrines en verre soufflé antique. Le verre soufflé antique, c'est exactement l'inverse du verre étiré que l'on voit partout. C'est un verre qui a gardé un aspect de surface, un peu granité, et qui est un verre qui était coulé sur des tables. Ces grandes plaques de verre sont soutenues par de très frêles structures métalliques. Ce sont donc des vitrines authentiques, extrêmement anciennes, en tout cas qui datent de la construction de ces bâtiments. C'est un véritable miracle que ces vitrines n'aient pas disparu. Elles étaient protégées, c'est vrai, par des rideaux métalliques qui venaient s'intégrer dans les grands caissons qui encadrent ces grandes baies vitrées. Je dis bien, c'est un miracle qu'on ait pu les conserver. C'est un témoin authentique du savoir-faire des constructeurs de l'époque pour la mise en valeur de ce qui se passait derrière ces vitrines, donc qui amenait le chaland, le passant, à rentrer dans ces espaces de commerce.
Et alors justement, on est donc 29 rue Baudinier, et vous disiez que vous aviez fait une rencontre fortuite avec le peintre du même nom.
Oui, avec le peintre Guillaume Baudinier, Angevin.
Racontez-nous, Ruelan.
Alors, je vais faire court. Oui. Un dimanche après-midi, la veille de ma visite à rue Baudinier, je suis rentrée dans le bureau de ma belle-mère chercher quelques pinceaux. Et puis, au lieu de me donner les pinceaux que je cherchais, elle m'a montré un rouleau de des croquis. Et puis, elle me montre des croquis, tout simplement. Elle me dit, tiens, regarde, c'est un peintre du coin. Il s'appelle Guillaume Baudinier. Est-ce que tu les veux? Et moi, j'ai dit non, merci. Et j'ai pris mes pinceaux, je suis partie. Et fin de l'histoire. Sauf le lendemain, c'était ma visite de rue Baudinier. J'arrive devant le lieu et je regarde la plaque sur le bâtiment qui est marqué rue Baudinier, peintre. Et je pense que j'ai eu un clin d'œil de Guillaume Baudinier à ce moment-là. Et une fois je suis rentrée dans visiter le lieu, j'étais sous le charme, c'était là.
Et c'est un très beau lieu, en effet, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cuvette WC, c'est impeccable.
Oui.
C'est très beau. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à rajouter, Hugues.
Oui, on a parcouru beaucoup les rues d'Angers pour trouver le local qu'il fallait. Moi, je me contentais de peu. Il suffisait d'un local suffisamment accessible dans le centre-ville, suffisamment grand pour recevoir quelques élèves. Et puis, basta, quoi. Et non, ça ne convenait pas à Ruelan. Il y avait toujours, c'était un problème, soit il n'y a pas assez de lumière, soit c'était trop petit, c'était mal agencé. Enfin, voilà, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et là, je sortais d'une énième visite encore d'un local. Je me disais, ça ne va pas lui faire. Et puis je passe devant ces rideaux qui étaient fermés. On m'a dit après qu'ils étaient fermés depuis au moins 50 ans. Donc des vieux rideaux comme on en trouve encore dans Paris, plus dans Angers. Je crois que ce sont les seuls qui restent avec une petite rosace, voilà, d'aération. Et en fait, là je regarde et je regarde sur Google Maps, je trouve rien. Je vais frapper à la porte suivante. Et ils me disent c'est pas à louer, mais peut-être à vendre. Et donc je m'enquiers auprès du propriétaire et qui nous donne rendez-vous, effectivement, le lendemain où Ruelan découvrait, attendait parler du... Alors, moi, j'étais un petit peu, circonspect, comme on dit, parce que devant l'énormité des travaux à faire, du chantier, parce que ça avait été laissé à l'abandon pendant beaucoup, beaucoup d'années, beaucoup de poussière, beaucoup de choses qui traînaient, qu'il a fallu vider tous les locaux avant de pouvoir commencer à travailler. Et puis, surtout, Ruelan insistait pour garder la trace. Ouais. De l'histoire, l'âme du lieu, montrer qu'il y a eu une vie avant ici. Et donc, ça n'a pas du tout été une simple affaire de trouver les artisans qui puissent nous aider à comprendre et à nous aider à réaliser ce que Ruelan vient de réaliser en ce moment.
Oui, vous avez fait un très beau travail de rénovation et vous m'avez dit avec l'aide d'étudiants de l'école d'architecture.
Tout à fait. Tout à fait.
De Paris.
Un ami qui est le directeur de l'école bleue, Jean-Marie Lemel, pour ne citer que lui, donc l'école bleue à Paris, qui est une école de design d'architecture intérieure, voulait prendre ce projet pour le proposer aux élèves comme projet professionnel, les élèves de quatrième année. Et on a reçu deux groupes de à peu près 20 à 30 élèves et qui nous ont rendu des très beaux projets. Ça nous a permis de bien comprendre, mieux comprendre ce que nous pouvions espérer de comment récupérer cet endroit. Oui.
Ruelan et Hugues, merci beaucoup.
Ruelan et Hugues vous accueillent à l'atelier de HI pour des cours de céramique, de peinture et de dessin. Et juste à côté, la chef japonaise Maki vous régalera à la douceur de HI. L'atelier de HI, c'est au 29 rue Baudinier à Angers, ouverture prochaine en novembre. On écoute Janis Joplin, Cosmic Blues. They turn away.
Vous écoutez Franche Culture sur Radio Campus.
Le patriarche du patrimoine.
Comme chaque année, depuis 30 ans, le Conseil départemental organise le prix d'architecture, d'habitat social et d'aménagement. Et cette année, Dominique a été très fructueuse car il a fallu choisir parmi 41 projets en lice.
Effectivement, et le jury a sélectionné 21 opérations. Il a décerné un lauréat, 7 mentions. Il assure donc la promotion de ces projets, d'abord par l'intermédiaire d'un catalogue que l'on trouve évidemment au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, mais ce sera surtout après une exposition itinérante. Car le prix départemental, il a pour but de mettre à l'honneur des constructions publiques et privées, ainsi que toutes les idées innovantes portées par les professionnels, qu'ils soient architectes, urbanistes ou paysagistes.
Et quel type de projet verra-t-on ?
Eh bien, on y verra des opérations d'une très grande diversité. Il y a des ateliers, il y a des commerces, il y a des équipements culturels ou sportifs. Il y a aussi des maisons individuelles, des logements collectifs, mais aussi des espaces publics. Et pour mieux en parler, j'ai invité Xavier Guéraud. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Vous êtes architecte à Angers, tout précisément rue des Lys, et le jury vous a attribué une mention pour votre projet de logement qu'on appelle Roi de Pologne à Angers. Il s'agit d'une opération de réhabilitation énergétique. On est face à la Maine, on est devant le château, entre la rue de Quatre-Barbes et la rue de Pignerolles. Le bailleur social, c'est la ville d'Angers, c'est le propriétaire. Et c'est un ensemble qui a été construit il y a 35 ans et qui avait un grand besoin de travaux. Alors Xavier Guéraud, c'est une nouvelle facette du métier d'architecte, ce travail.
On peut le dire comme ça. C'est vrai qu'actuellement, à l'agence, on travaille trois sujets un petit peu équivalents de réhabilitation énergétique. Après, c'est vrai que pour les bailleurs et les syndics, il faut qu'ils s'y mettent. Il y a un réel besoin. Hein. C'est l'actualité du moment. Il faut qu'ils rénovent absolument leur parc locatif au risque de voir un centre de logement à terme qui ne soit plus, qui soit purement et simplement interdit à la location.
C'est pour effacer ce qu'on appelle aujourd'hui les passoires énergétiques.
Exactement, passoires énergétiques. Même si c'était pas le cas dans le cas de cette résidence.
C'est vrai. Quelles ont été les idées fortes au départ, qui ont permis de conduire ce projet, quels ont été les objectifs que vous vous êtes assignés pour améliorer tant au plan énergétique qu'au plan artistique cet ensemble immobilier?
Alors les objectifs, alors vous l'avez dit, on est quand même sur un site un peu spécial, hein, puisqu'on est en co-visibilité directe avec le château d'Angers et l'hôtel du Roi de Pologne, qui sont des monuments historiques classés majeurs de la ville d'Angers. Donc à ce titre, on devait aller faire la démarche d'aller voir l'architecte des bâtiments de France pour recueillir son avis, et en l'occurrence déposer un permis de construire avec un avis favorable de sa part. Et je me souviens quand j'avais été le voir la première fois pour lui présenter la résidence telle qu'elle était, la première chose qu'il m'a dit, c'était la qualité première de cette résidence, c'est qu'on ne la voit pas. Donc ça m'avait amusé à l'époque. Je comprenais en fait ce qu'il voulait dire, c'est qu'elle venait pas interférer finalement avec ces deux monuments
elle
historiques.
Elle accompagnait parfaitement le tissu existant et les grands monuments qui sont aux abords.
Mais du coup, il y avait forcément quelques défauts, c'est-à-dire qu'on a une pente qui est quand même assez importante, et finalement on avait un linéaire de façade qui n'était pas tellement travaillé, et en tout cas de façon complètement uniforme. Il y avait un espèce de continuum qui était presque ennuyeux. Donc l'idée, c'était vraiment de séquencer cette façade et d'amener des touches, de contraster ces éléments pour dynamiser un petit peu cette façade qui était un petit peu atone.
Et ça, c'est ce que vous avez essentiellement fait rue de Quatre-Barbes, où vous avez alterné des grands pans d'ardoise. Donc resimuler en fait des îlots, des parcelles juxtaposées, plutôt que d'avoir un ensemble d'habitations qui s'étale sans jamais de grande variété.
Exactement, c'était vraiment l'idée de revisiter aussi un peu l'idée du clairé d'ardoise. Alors plus comme on avait pu le faire dans le temps avec des grands losanges, maintenant on a un fournisseur là qui nous permet d'avoir un calepinage qui est beaucoup plus contemporain, avec une alternance d'horizontale et des...
Je vais vous interrompre parce que je suis néophyte. Est-ce que vous pouvez pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un calepinage, s'il vous plaît?
Alors, un calepinage, c'est la façon dont on va appareiller finalement les pierres et notamment les ardoises. Entre elles, vous voyez, on a des ardoises un peu plus grosses, d'autres plus petites, et qui va donner un motif finalement. Et voilà, donc on arrive à quelque chose qui est un peu plus contemporain.
Donc, grande façade noire de la teinte de l'ardoise, c'est aussi la caractéristique du quartier.
Est-ce qu'il y avait du sens dans le quartier, voilà, bien évidemment.
Bien sûr, en alternance avec des façades beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses.
Tout à fait, et on a renforcé aussi ce côté ardoisier en travaillant aussi les socles avec du schiste, qui redonne aussi un peu de qualité au niveau du piéton.
Donc derrière cet habillage de façade, il y a évidemment des complexes d'isolation thermique extrêmement important qui permettent de redonner du confort. J'ai vu que vous n'êtes pas intervenu sur les couvertures. Comment est-ce que vous avez pu assurer ce même confort énergétique pour les logements qui sont situés dans les combles?
En fait, on s'aperçoit que pour atteindre les objectifs qui nous étaient assignés, alors pour le coup, on n'était pas dans une passoire énergétique, plus on avait une étiquette C pour cette opération, et le maître d'ouvrage nous demandait d'atteindre l'objectif du BBC Réno, bâtiment basse consommation, rénovation. Donc on n'avait qu'une étiquette à avoir supplémentaire, et on a réussi à franchir le pas uniquement en changeant les menuiseries et tout l'appareillage intérieur des radiateurs de la VMC et en isolant les combles. Mais on n'a pas eu d'isolation proprement dite supplémentaire. D'accord. À l'intérieur des logements.
Et donc le bilan de cette opération au sens des économies d'énergie, on peut les chiffrer aujourd'hui?
Vous voyez, on est passé d'une équipe étiquette C à 150 kWh par mètre carré par an à 80, donc ça fait un gain d'à peu près 30% au niveau économie d'énergie.
Dans ce relookage de façade, on peut appeler ça ainsi, vous avez réservé une large place aux ouvrages en serrurerie, à la fois sur les encadrements des baies, c'est-à-dire des ouvertures, mais aussi sur les garde-corps. C'est lié à la mode actuelle ou c'était une volonté particulière? Ça vous semblait indispensable pour redonner un peu de modernité en fait à cette architecture?
Tout à fait. En l'occurrence, on trouvait que la résidence telle qu'elle était, elle avait beaucoup de scories un petit peu de ces années-là. Elle était très marquée années 80 avec des lucarnes triangulaires, des gros encadrements. Et puis c'est effectivement ces garde-corps avec barreaudages verticaux qui était quand même significatif d'une époque, même si ça a tendance à revenir un petit peu d'ailleurs en ce moment. Enfin, quoi qu'il en soit, nous, on a essayé d'avoir un motif qui soit un peu plus contemporain, avec une tôle en découpe laser et un motif un peu pixel qui crée une espèce de petite dentelle, là, quand on le voit notamment depuis l'hôtel du roi de Pologne, et le soir, quand le soleil se couche, on a un petit côté irisé là, qui est assez joli.
On a des ombres portées qui animent la façade,
tout
absolument.
Du coup, sur les autres rues, effectivement, on a remis en place des petits encadrements ponctuels, des petites touches comme ça de couleur un peu qui rappellent un peu le Corten pour un peu dynamiser ces façades, encore une fois, qui étaient un peu tristounes.
Alors, je rappelle, ce sont des logements sociaux qui appartiennent à la ville d'Angers. Comment est-ce qu'on gère un chantier aussi important en site occupé, c'est-à-dire que les locataires restent, demeurent? Comment est-ce qu'on arrive à les contenter dans leurs demandes au quotidien alors qu'on organise des travaux extrêmement importants qui vont occulter les façades, qui vont obliger au changement des menuiseries? Il y a une organisation de chantier particulière à avoir, j'imagine.
C'est une réelle difficulté sur ce genre de chantier. Parce qu'effectivement, là, on a parlé de l'enveloppe, mais on réhabilite également l'intérieur de la résidence avec toutes les parties communes, les halls, et y compris les logements, proprement dit. On va remplacer les sols, remettre aux normes l'électricité, etc. Effectivement, le bailleur, en général, il est au courant de ces complexités d'intervenir en site occupé. Donc, en général, on a des missions complémentaires qu'on appelle OPC+, qui finalement consiste à venir sur le chantier une fois par jour pour assurer l'interface entre les locataires et les entreprises.
Et on vous a demandé en même temps, je crois, de privatiser les cours. Autrefois, on traversait cet îlot de construction assez librement. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité peut-être, on vous a demandé de créer des murs d'enclos en schiste, à nouveau, surmontés de grilles. Est-ce que c'est bien pour des raisons de sécurité?
Oui, tout à fait. C'est ce que le bailleur social appelle maintenant la situation préventionnelle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Effectivement, il y avait des problématiques de squat, d'insécurité, y compris dans ce quartier-là. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Oui. Donc, on a mis en place des barrières physiques pour vraiment faire le distinguo entre l'espace public et l'espace privé, avec des murets qui sont appareillés également en schiste, surmontés de grilles, qu'on a travaillé un petit peu par séquence, hein, pour reprendre la pente qui est quand même assez forte. Et finalement, on s'aperçoit que ça marche bien, même si on n'a pas de contrôle d'accès ou de clé. Ah oui. Le fait qu'on ait une barrière physique qui fait que psychologiquement...
Les locataires n'ont pas l'impression d'être en prison, pour autant.
Non, parce que c'est quand même raisonnable au niveau des hauteurs. Hein. C'est
pas... Très bien. Autrefois, les façades étaient enduites dans des tons assez classiques pour Angers, des beiges, des tons de sable. Aujourd'hui, vous avez utilisé des peintures assez blanches. C'est à nouveau un effet de mode. On voit beaucoup de constructions nouvelles dans des teintes très très claires, voire très blanches, voire je dirais méditerranéennes, plus qu'angevine, avec des ouvertures métalliques noires. Est-ce qu'il n'y a pas un effet mode aussi dans ces choix?
Un effet de mode, je sais pas. C'est vrai que nous, les architectes, on est un peu incorrigible à ce niveau-là, mais on aime bien effectivement soit avoir des teintes assez claires ou très foncées. En l'occurrence, avec notre concept de séquencer la façade et d'avoir un distinguo important entre les séquences de clairie, on avait envie à côté d'avoir des façades plus claires. Après, on reste quand même dans le nuancier du Maine-et-Loire et le projet est validé par l'ABF. Ça vient pas de nulle part.
Eh bien, Xavier Guéraud, merci pour toutes ces explications et encore toutes nos félicitations pour l'attribution de cette mention par le jury du prix départemental.
Je vous remercie. Au revoir.
C'est la fin de France Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Campus, pour votre écoute. Retrouvez-nous pour la rediffusion de l'émission dimanche prochain à 11h30 et le mercredi en direct à 17h. Et surtout, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à la partager, notre podcast, et nous liker sur nos réseaux sociaux.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.